Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Wi-Fi Café Ambition, saison 3, épisode 4. Je suis Josiane Brousseau et je co-anime avec le merveilleux Simon Rivet. Bonjour Simon!
Bonjour Josiane!
Alors, dis-moi donc, cette semaine on va parler d'actualité numérique, mais aussi des influenceurs qui ont lancé des entreprises et que ça a mal viré.
Ah oui, on va parler du fiasco qui a été Ignite par Dan Bilzerian. Je parle déjà au passé qui a été la compagnie en date du podcast. Aujourd'hui, le 18 octobre existe toujours, mais je crois que le jour, voire leurs heures, sont comptées.
Exactement. Donc, c'est parfait. On passe à l'intro.
Alright, Josiane, parle-moi, comment a été ta semaine?
Écoute, moi, ma semaine a été inspirée un peu par un mouvement, puis ça, je veux en parler, un mouvement qui prend de l'ampleur depuis 2018 sur Instagram, mais cette année, avec le confinement, le COVID-19, ça a pris encore plus d'ampleur que jamais, c'est le mouvement Bookstagram. Donc, c'est des lecteurs qui partagent des intérêts communs pour les lectures et tout. D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram, je fais partie un petit peu du mouvement parallèlement. Je me considère plus comme, plus un profil entrepreneur, mais souvent, je vais partager mes lectures et des choses comme ça. Et c'est souvent accompagné de merveilleux clichés de bibliothèques arc-en-ciel et de merveilleux clichés de livres, et ça donne envie de retomber en amour avec le livre. Et ce mouvement-là, j'ai vu des statistiques assez, je me souviens plus des chiffres exacts, mais ce mouvement-là a pris de l'ampleur avec le COVID-19. Et même moi, j'ai fait le test, et mon objectif annuel, à chaque année, le 1er janvier, je me dis, mon objectif de l'année, c'est de lire 60 livres, et je suis presque arrivée à l'atteinte de mon objectif. Donc, d'ici la fin de l'année, il reste 74 jours, soit à peu près 6 semaines avant la fin de l'année. Et ces 10 semaines, donc je me dis un livre par semaine, donc je devrais atteindre 68 livres environ cette année pour 2020. Même je le vois dans ma bibliothèque, c'est incroyable, ça déborde de partout. Mais ça, les sociologues et plusieurs spécialistes du numérique expliquent ce phénomène-là, justement parce que les gens, à un moment donné, ben écouter Netflix à la longueur de journée, être trop connectés virtuellement, a fait en sorte que les gens se sont retournés vers les librairies. Et on l'a vu durant le confinement, admettons, je commandais chez Renaud Bré. Et c'est justement, souvent, c'était back-order. Il y a un livre que j'avais commandé au mois de décembre que j'ai reçu au mois de mai. Donc, vraiment, il y a eu un peu de réimpression.
Mis à part Amazon, je sais pas c'est quoi qui se passait avec, justement, qu'est-ce qui est libraire, distribution de livres. Oui. Je sais pas si c'était une demande qui était trop grande ou une infrastructure qui était défaillante.
Je te dirais, même Amazon a eu de la misère à suivre le pas. À un moment donné, je voulais commander des choses sur Amazon parce que je me suis dit, ah, j'ai Prime, ça va aller plus vite. Et c'était des 3 semaines, 1 mois pour tout ce qui était livre. Donc, vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu globalement, dans le monde entier, un intérêt pour les livres, mais je pense que aussi la consommation du livre a vraiment augmenté. Les libraires ont vu l'impact. Je connais des auteurs aussi qui ont vu des impacts avec qui qu'on en parlait, qui faisaient
pratiquement pas d'argent. Je pense que ma génération puis les générations futures font partie d'une génération qui est beaucoup plus informée, beaucoup plus intellectuelle et puis qui va glorifier beaucoup plus la lecture. J'ai l'impression que si on regarde,
exactement,
exemple, nos parents, les boomers, en passant, je salue tous les boomers, bonjour, bonsoir.
Non, mais
et puis,
je vais te faire une parenthèse,
j'ai l'impression que le travail manuel et la labeur étaient beaucoup plus glorifiés. Et puis, lire un livre, c'était pour les autres, un peu, mais justement.
Exactement. Mais moi aussi, je pense que, tu sais, moi, ma génération, on a grandi avec Harry Potter. Donc, Harry Potter a été l'élément déclencheur pour plusieurs, comme coup de cœur, lecture, et à vouloir percevoir et lire davantage. Je veux dire, moi, en secondaire 1, ben Harry Potter arrivait au Québec, là. Tu sais, c'était Harry Potter, tout le monde parlait d'Harry Potter. Un an ou deux plus tard, ils sortaient les films. Fait que, tu sais, vraiment, ça a été très, très vite et très... tu sais, toi, t'étais peut-être un peu plus jeune, donc...
Je pense que Harry Potter est sorti, j'avais peut-être 10, 11, 12, 13 ans.
Exactement.
J'ai 29 aujourd'hui, donc ça donne du sens.
Oui, ça fait à peu près 20 ans fait que c'est sorti. Et je pense que ce mouvement-là, que c'est justement notre génération d'adolescents et jeunes enfants qui a fait en sorte que, tu sais, on a pris goût à la lecture. Puis souvent, quand je regarde les bookstagrammeurs, c'est souvent soit des gens à peu près de nos âges, un peu plus jeunes, et que, tu sais, justement, ils ont eu des coups de cœur pour des livres. Et cette passion-là aussi, on le transmet à nos enfants. Récemment, on a écouté un film de Netflix. Je savais que c'était basé sur des livres. Et j'ai insisté que Daphné s'achète au moins la bande dessinée pour le lire. Et elle faisait la différence, justement, entre le livre, la bande dessinée et le film. Et j'ai été épatée parce que on s'entend, Daphné, elle a juste 7 ans, elle est en deuxième année du primaire.
Tellement
bien. Et elle lit très, très bien. Ben, je pense qu'on lui a donné la piqûre de la lecture de maman.
Mais sinon, au niveau lecture, on a parlé des librairies, oui. Josiane. Je pense qu'une grosse adaptation au web et puis aux bonnes pratiques du web à faire pour les plus petites librairies. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, ben, tes recommandations? Tu les visites beaucoup plus que moi.
Écoute.
Donc, parle-moi-en, parce que moi, qu'est-ce que j'en ai vu? J'ai été amèrement déçu. Encore là, tu vas dire, ah bon, Simon, encore qui chiale sur quelque chose, mais je pense que c'est justifié. On pourrait faire beaucoup mieux de leur côté.
Ben, écoute, je pense que c'est un domaine qui a pris beaucoup de retard. Moi, j'ai travaillé pour des maisons d'édition. En fait, en 2006, quand j'ai commencé ma carrière en marketing, je travaillais pour une petite maison d'édition que eux voyaient vraiment de l'avenir. Mais tu sais, l'infrastructure globale du livre, c'est un très, très, très vieux milieu. On s'entend, là, c'est le livre, ça existe depuis à peu près la nuit des temps, là. Je suis pas historienne du livre, mais tu sais, je sais que ça existe vraiment depuis très, très longtemps. Et que ce milieu-là, ben, tu sais, c'était un milieu un petit peu, je dirais, exclusif, un petit peu un milieu, tu sais, où est-ce que, tu sais, on a de la misère aussi avec le changement. Et le web est arrivé justement,
parlant de misère avec le changement, tu sais, je donne l'exemple, nous, on est dans le Vieux-Longueuil, on va souvent à la librairie à lire en boutique, c'est exactement. Génial, c'est magnifique, mais quand on leur pose des questions, « Hey, on a vu tel truc sur votre site web, ça dit que vous l'avez, l'avez-vous vraiment? » Ils font « Ouais, mais notre site web, là, c'est con, ça compte pas. »
Leur site web, c'est même pas leur site web à eux, ils ont un site web vitrine, et après ça, parce qu'ils font partie du réseau des libraires indépendants, ben, faut que tu commandes par le réseau.
Mais ce que je veux dire, OK, pour pas tourner autour du pot, j'essaie d'être trop poli, puis en passant, tu sais, je veux pas insulter personne parce que c'est vraiment pas mon but, mais ils ont l'air, en bon québécois, de se calisser de leur infrastructure web.
Oui.
Puis ça.
Ben, ils étaient pas sur Instagram. Moi, je voulais les taguer au mois de février en allant chercher le dernier de Bec Bédère.
Oui, c'est vrai. Puis il avait quasiment ri de toi en disant comme, ben non, on n'a pas besoin d'être sur Instagram, arrête, là.
Exactement.
C'était comme, voyons donc, c'est quoi ça, cette pratique-là?
C'est comme, voyons, mais ils étaient sur Facebook, ils font des lives Facebook. Peut-être que c'est ça qui fonctionne aussi pour eux parce qu'ils ont une clientèle aussi qui est plus dans le vieux Longueuil, donc une clientèle un peu plus vieille et intellectuelle. Je connais bien la clientèle parce que ça fait des années que j'habite dans le vieux Longueuil. Et je connais, tu sais, on voit souvent plus des personnes un peu plus vieilles mais que jeunes fréquenter la librairie.
Je comprends la démographie, mais mon problème, c'est ce manque de sérieux-là, justement, par rapport aux libraires et au web.
Ben,
je pense que c'est en train de changer.
Depuis un an.
Je pense que, justement, les gros s'adaptent bien.
Exactement.
Mais après ça, c'est que les plus petits, ils braillent. Ah, oh, les gros ont un gros avance sur nous. Ah, oh, les gros vendent plus sur Internet. Sont méchants. Mais oui, mais le petit a quand même les moyens de s'adapter. Ça coûte, t'es pas obligé de dépenser 850 000 $ pour être sur le web. C'est ça mon problème que j'ai, c'est « Ah, oh, les gros le font, ils sont méchants. » Oui, mais toi aussi, en tant que plus petit commerce, tu peux le faire. C'est ce genre de refus de s'adapter, puis genre de fermer les yeux, se mettre les œillères, se mettre dans un coin, pleurer, s'auto-flageller, puis dire qu'on est une victime.
C'est typique au Québec, encore une fois. OK, et encore une fois, tu sais, on le voit vraiment beaucoup au Québec, parce que je regarde des mini-librairies en Angleterre ou en Écosse, que j'ai jamais entendu parler, mais je les découvre parce que le hashtag Bookstagram que je suis. Donc, tu sais, il y a vraiment un moyen justement de s'adapter, mais il y a d'autres petites librairies indépendantes qui se sont très bien adaptées aussi. Fait que tu sais, on peut pas toutes les mettre dans le même paquet, parce que je pense qu'Arim
Pouski... Non, il y en a qui s'adaptent bien, mais...
Vanessa BM, qu'on adore suivre, qu'on aimerait savoir sur le podcast, parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas entendu d'elle. Donc, j'aimerais ça l'avoir sur le podcast prochainement, pour qu'on parle un petit peu justement des achats locaux et tout, avec elle, parce qu'elle est vraiment spécifiée dans les achats local, et je crois que c'est la librairie Vénus à Rimouski qui, justement, pendant le COVID, elle achetait ses livres de là. Elle posait aussi, tu sais, des questions. C'est, je pense que c'est ça, oui.
Ah, c'est ça, librairie Vénus.
Ils ont même, je pense, leur propre Shopify qu'ils ont mis en place. Tu sais, ils ont vraiment...
My business, ils ont des belles photos signées sur la map, ils ont des
ratings. Ils ont même des vêtements de passe-partout. Tu sais, ils ont vraiment...
Écoute, ça, c'est de la bonne pratique.
On dirait presque Renaud Bré, comme site, presque. Renouveler,
ça ne leur a pas coûté 850 000 développer quelque chose comme ça. Moi, je mets ma main au feu que tu peux développer quelque chose comme ça. Si tu es prête à tout faire par toi-même, entre 800 et 3 000 $ si tu engages une agence, entre 10 et 25 000 $ là, tu n'as pas à fucking mettre la banque là-dessus.
Exactement. Puis tu sais, je parle de librairie Vénus, mais à cause de que, justement, Vanessa BM a partagé tout ça, il y a des gens de Montréal, de Québec, de... partout au Québec, puis même dans le Canada.
1119 followers.
Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est petit 1119 followers, mais ils ont des beaux Instagram, mettent en vie leurs livres.
Ouais, pour une un petit commerce local, c'est bien.
Une avait été, qui était aussi, c'était l'année passée, je pense à Rosemère, tu te souviens-tu la librairie en question?
Carcajou.
Oui, exactement.
Mais Carcajou, c'est un gros, ça, si je me trompe pas, et compétitionne avec le Renaud Bré.
Oui, exactement, là, tu sais.
Mais eux, c'est, ils ont des, c'était beau.
C'est ça. Ils sont sur les libraires, mais ils ont pas de site web, mais c'est l'expérience. Non, mais c'est l'expérience en boutique, là.
L'expérience en boutique, c'est cœur, hein. Elle
est écœurante, puis il y a beaucoup de gens, c'est faux aussi.
Ah, leur site web fait une erreur 404.
Attends, c'est sur le catalogue. T'es sur le catalogue.
Oui, mais quand même.
Ben, c'est parce que,
ça sort sur la première page de Google.
Ouais.
On a besoin de les appeler. Ils ont besoin de nos services.
Exactement.
C'est straight une erreur 400.
Ah. Puis ça rapporte au libraire. OK.
Ils ont plus de site web. Ils rapportent au libraire.
Parce que.
What?
Ouais.
OK. Ils ont besoin d'aide aussi, mais ils ont une belle boutique.
Exactement. La boutique. Mais moi, je pense aussi que, tu sais, c'est une expérience client. Mais là, avec la COVID, c'est vraiment l'achat en ligne globalement qui a augmenté. Mais aussi, justement, en plus de l'achat en ligne, on va s'être retourné beaucoup vers la lecture, vers plein de choses comme ça, et de passions nouvelles. Tu sais, moi, je vois des gens qui ont commencé à tricoter. Je disais en blague que peut-être je commencerai le tricot en mer hier. On verra qu'est-ce que ça va donner, là. Tu sais, genre, j'ai lancé ça un peu à blague, mais j'étais un petit peu sérieuse aussi à propos de ça. Donc, il y a vraiment, tu sais, quelque chose qui peut être fait. Il y a quelque chose aussi, tu sais, justement... tu sais, au niveau de tout ce qui est librairie, les comptes de Bookstagram qui commencent à exploser. Il y a des super comptes comme Ariane Brosseau, Miss Littérature, qui parle de ses coups de cœur, tout ça. Elle, je l'avais découvert parce qu'elle m'avait rejoint pour faire une conférence qui a pas eu lieu, justement, je pense, à cause du COVID ou peu importe la raison. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je rencontre des gens, justement, et on rencontre des nouveaux livres et tout ça. Puis même les maisons d'édition commencent à mettre des efforts aussi pour se faire connaître, mais ces efforts-là, faut aussi que, tu sais, on aille chercher des influenceurs lecteurs qui vont parler des livres. Et justement, Éditions Scolastiques, eux, qu'est-ce qu'ils font? Et Renaud Bré aussi vont repartager beaucoup qu'est-ce que les gens ont commandé. Puis c'est inspirant. Même des fois, moi, je me suis fait prendre au jeu et j'ai commandé des livres des deux plateformes pour Daphné parce que je trouvais ça tellement... le fun est tellement, tu sais, super bien, tu sais, organisé et tout. Mais tu sais, moi, genre, c'est ça. Il y a aussi le hashtag lecteurs du Québec qui comporte plus de 1000 posts. Et quand tu regardes, il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs partagent des belles photos. Présentement, je suis dessus. Des belles photos où est-ce que, tu sais, on voit des lecteurs, des lectures. Hey, mon Dieu, il y en a que j'ai envie de copier un petit peu le style. Tu sais, c'est de l'inspiration aussi pour les autres créateurs de contenu. Et tout. Donc, je pense que il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, quand un hashtag est rendu à plus de 1000 quelques personnes qui le suivent, puis qui en font partie de ce mouvement-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau littéraire. Mais comme je disais, c'est un vieux domaine qui est en train de se réinventer avec Internet, force de plusieurs choses qui se passent.
Absolument. Mais vraiment, c'est... Bon, anyway, tu sais, je veux dire, pour finir sur une note positive sur ce sujet-là, il y a des libraires qui font des moves. Ceux qui ne bougent pas vont justement avoir à s'adapter. Et puis... ça bouge, puis c'est tant mieux pour tout le monde que ça bouge, puis surtout dans le nouveau normal où est-ce que les gens achètent de plus en plus en ligne, où est-ce qu'on essaye de limiter nos contacts physiques pour ne pas avoir le COVID ou n'importe quoi, whatever. C'est bien que les librairies s'adaptent, puis je souhaite que plus de libraires emboîtent le pas, comme Vénus le fait, justement. Libraire Boutique Vénus. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se sont vraiment bien adaptés, mais c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui. Librairieboutiquevenus.com. Eux qui sont dans le coin de Rimouski, justement. C'est l'exemple de dire, voilà ce que vous devez faire pour être en ligne et pour bien le faire.
Et cette librairie-là, j'aurais raconté une anecdote justement de 2007 ou 2008, début 2007, fin 2007, début 2008. À un moment donné, je travaillais, comme je disais, une petite maison d'édition indépendante et on reçoit un appel de Vénus. Ils sont à l'écoute, ils ont appelé. Il y a des librairies qui snobent les petits éditeurs, les petites entreprises d'édition. Et, tu sais, justement, eux, ils ont dit, non, on aimerait ça, il y a un qui l'a demandé, mais on aimerait ça avoir d'autres exemplaires au cas où. Et je pense qu'il avait commandé 5 exemplaires du livre. Et il l'avait mis d'avant parce qu'il croyait vraiment beaucoup, justement, tu sais, à mettre d'avant, justement, de l'achat local, des auteurs locaux. Donc, vraiment, tu sais, privilégier ça, il y a des beaux efforts qui se font, justement, à ce niveau-là.
Super. Maintenant, côté nouvelles, il s'est passé un paquet de trucs sur Google. Au niveau de Google, c'est énorme. Oui. Je commence avec le nouveau Google Analytics qui est Google Analytics 4 qui vient justement avec 4 nouveaux features ou plutôt une nouvelle philosophie plutôt. Le nouveau Google Analytics va être réellement beaucoup plus autour de l'intelligence artificielle et à fonctionner d'une manière beaucoup plus clé en main avec Google Ads. Tout est pensé pour que un connecte dans l'autre et puis que vous pouvez travailler avec un et l'autre d'une manière beaucoup plus fluide. Et puis aussi, ben ils font beaucoup plus on va dire l'intégration de technologies de prédiction et d'intelligence artificielle. Sinon, ben autre nouvelle cool, une marque qu'on suit depuis toujours, puis je vais en parler parce que c'est réellement le futur, c'est Tesla.
Oui, un nouveau véhicule.
Ben, il y a quelques semaines de ça, pour ceux qui sont justement comme moi, des passionnés d'automobile, quelques mois même, Tesla ont sorti le modèle Y. Les modèles Y de Tesla, principalement aux États-Unis, un peu au Canada, ont commencé à être livrés. Et puis maintenant, justement, il y a quelques semaines de ça, Tesla ont fait une mise à jour du logiciel à distance. Personne n'a eu à aller en boutique, en concession. Ils ont simplement, over the air, dans le fond, à travers l'Internet, envoyé une mise à jour sur l'auto qui a rajouté des fonctionnalités et puis qui a augmenté la capacité de la batterie, mais plutôt la capacité de gérer la batterie pour avoir un plus grand range. Je cherche mon mot en français, mais une plus grande distance à parcourir. C'est fou, pareil. On est dans le futur où est-ce que les maintenances de l'auto et les mises à jour de l'auto se font à distance. Tous les manufacturiers devraient emboîter le pas.
Oui.
C'est malade. Moi, je tripe.
Éventuellement, les Tesla vont voler. C'est pas une blague.
Non, j'y crois vraiment, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient avec le Tesla Roadster. Mais qu'est-ce que je crois vraiment, c'est, puis encore là, je veux pas tomber dans le complot, mais c'est pas que les autres manufacturiers, comme exemple GM ou Toyota, peu importe, ne pourraient pas faire des mises à jour pour leurs véhicules à distance. C'est certainement pas qu'ils ont pas l'argent pour le faire, mais c'est que ils ont tout un système de bâti à ramener les clients en concession. C'est pas le fun, c'est lourd comme expérience, mais ça leur rapporte énormément d'argent.
Oui. Puis il y a aussi encore une fois Google, quand on disait qu'il y avait beaucoup de stock de Google. L'assistant virtuel de Google, donc le fameux Hey Google, va devenir de plus en plus autonome.
Ben justement, parlant de plus en plus autonome, il y a plusieurs marchés maintenant dans certains secteurs, certaines régions qui sont ouverts à utiliser la fonctionnalité qui nous permet de prendre des rendez-vous à même notre assistant Google. Donc, si vous avez un haut-parleur Google ou n'importe quel type de Google Assistant, vous allez pouvoir dire « Hey Google, book-moi un rendez-vous chez tel ou tel coiffeur ou tel restaurant » parce que pour le moment, ça marche avec les restaurants et les coiffeurs, à ce que j'ai pu comprendre. Et puis, Google, eux, de leur côté, vont envoyer un appel automatisé qui a une voix très humanoïde qui va appeler le coiffeur, qui va appeler le restaurant, qui veut dire tel client veut prendre une réservation à telle heure, est-ce que c'est bon pour vous? Sinon, qu'est-ce que vous proposez? Et ensuite, cet assistant-là va vous rappeler pour vous confirmer ou non. Tout le processus de prise de rendez-vous va être contrôlé par l'assistant Google. Ça a été présenté il y a environ un an et demi de ça. Et puis en ce moment, ben, c'est en train de devenir vrai dans certains marchés aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie et en Angleterre. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore essayé, mais je pense qu'on devrait le faire. Josiane, est-ce que tu penses que c'est actif en ce moment à Montréal, au Québec?
Ben, je pense qu'ils commencent à faire des tests parce que l'autre jour, on m'a dit « Ah, ben si tu veux téléphoner à quelque part, tu sais, dis le nom de la personne, v'là un an ».
Ouais.
Ça se faisait, mais en anglais seulement. Mais là, en français québécois, je pense que c'est en train de se développer. Mais on est tout le temps à peu près 6 mois en retard sur, justement, les nouveaux features.
Mais moi, il y a une chose que je me demande vraiment comment qu'ils vont gérer. J'ai une idée, mais sur papier, ça donne beaucoup de sens, mais dans la vraie vie, je pense que ça va être difficile. Comment est-ce qu'on va gérer le bilinguisme au Québec? Google, quand il va appeler ton salon de coiffeur, il va parler dans quelle langue?
Ben, je pense que aussi, tu sais, justement, Google a assez d'informations pour savoir, admettons, si, et reconnaître aussi peut-être la langue.
Ouais, mais exemple, Google va te parler, j'imagine, par défaut dans la langue que ton entreprise a sur Google My Business.
Exactement. Fait que,
néanmoins, si la personne parle français, est-ce qu'il va switcher de l'anglais au français ou du français à l'anglais? Je le sais pas.
Je le sais pas, mais qu'est-ce qui est très drôle avec Google au Québec aussi? Tu sais, on a des forts anglicismes, et puis ils les utilisent. Et vraiment, tu sais, même des fois, quand, que, mettons, je dis, ah, peux-tu, je sais pas moi, mets un timer, tu sais, au lieu d'une minuterie, ben, il va mettre le timer, tu sais, puis il dit, OK, timer pour tant de temps. Puis il te le dit aussi d'une façon correcte. Il comprend que l'expression est autre. Fait que je sais vraiment pas, mais je suis sûre que Google va trouver un moyen de nous amaze là-dessus.
Parlant d'assistant virtuel, tu te souviens de l'assistant virtuel? Ben moi, j'ai un téléphone Samsung Bixby qui remplace un peu le Hey Google ou Alexa ou peu importe sur les téléphones Samsung.
Oui.
Je crois que Bixby va progressivement prendre le bord.
Oh!
Ouais, et être remplacé par défaut par Google Assistant parce que là, il y a une nouvelle qui vient de sortir qui dit que les nouvelles télévisions Samsung aux États-Unis, donc les télévisions intelligentes Samsung, vont venir par défaut avec Google. L'assistant Google plutôt que Bixby.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont faire la même chose pour le téléphone, les ordinateurs puis les autres appareils? Je le sais pas. Mon expérience avec Bixby n'a pas été horrible, mais on est encore très loin de la versatilité et puis du savoir infini de Google, ça c'est sûr.
Google a vraiment beaucoup de coups d'avance sur tous les assistants virtuels. Et puis même, tu sais, au lieu de bitcher, si tu demandes qu'est-ce qu'il pense d'Alexa ou de Siri ou de Cortana ou des autres, vraiment, il y a une intelligence artificielle. Et le fait aussi, tu sais, comme hier, j'ai demandé, hey Google.
Ben, il y a une base de données, justement, tellement énorme. Il y a tout le savoir infini de leur moteur de recherche, puis de l'Internet, justement, qui est collecté par
Google. Et quand j'ai demandé, hey Google, quel est ton film préféré? Vous irez voir dans ma story s'il est encore disponible au moment que vous entendez ce truc-là. Mais bref, on demandait, hey Google, quel est ton film favori? Et Google nous a répondu, Elvis Graton, car je peux y apprendre des expressions québécoises.
Donc,
c'était fort.
Exactement. Fait que Google, un coup d'avance, je pense que Alexa aussi est en très bonne position. Chaque fois que je parle à des gens, ça va tout le temps entre Google et Alexa. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup l'assistant virtuel de Google. Parlant de Google, il va bientôt avoir un feature, je crois que c'est lancé sur Google Search, qui va permettre et puis avec une application aussi sur mobile qui va permettre de chercher une chanson, un peu comme Shazam.
C'est déjà sorti?
déjà sorti. OK.
Mais, parce qu'il en parlait.
Parle-nous de ça, t'as l'air de l'avoir utilisé.
En fait, il est arrivé justement, comme là, peut-être une semaine, je disais, j'ai pas téléchargé ça ou quelque chose comme ça. Puis là, genre, j'ai comme regardé parce qu'il est comme pas activé, mais tu sais, ils l'ont comme mis par défaut sur la nouvelle update du téléphone, justement.
Et puis, ils appellent ça le Google to search parce que tu peux mais tes chansons.
Oui, exactement. Ben, je pense que certaines personnes que tu sais, ils te demandent tout le temps, c'est quand tu te crées un compte, si tu le veux, en bêta. Et ouais. Bref, peut-être que je l'ai en bêta et que c'est pas encore sorti au grand public, mais je l'ai vu. Et je trouve ça vraiment intéressant, justement.
Ben, je trouve que ça donne du sens. Ça donne tellement du sens.
Un bon compétiteur à Shazam.
Ouais, ben il y en avait déjà d'autres aussi, mais c'est vrai que dans cette sphère-là, Shazam était un peu indétrônable, je dirais. Fait que c'est le fun, puis prenant en compte justement que Google est un moteur de recherche, je trouve que ça fait juste donner du sens comme extension à leur liste de logiciels qui permettent, sinon encore dans le domaine de Google, Google tire la plug sur Trusted Contact. Est-ce que tu te souviens de Trusted Contact? Je vais te résumer. En gros, Trusted Contact, c'était une application qui permettait entre les contacts à qui tu fais confiance, tes contacts proches, famille, amis, de garder le contact proche. J'avais moi-même un compte Trusted Contact de Google. Où est-ce que toi, Josiane, tu étais dedans comme mon Trusted Contact? Si je me faisais kidnapper, c'est toi qui appelais. si je perdais mon téléphone, tu pouvais voir à partir du tien où est-ce qu'il était sur la map. En gros, qui partage tout ce que je fais, ouais, qui est-ce que je suis. Tu es mon Trusted Contact.
Mais de toute façon, je sais déjà tout ce que tu fais, tout ce que je te suis partout, puis...
Malheureusement, moi, je trouvais Trusted Contact,
je
trouvais ça vraiment le fun comme feature. Par exemple, ils ont tiré la plug sur Trusted Contact, et puis maintenant, ça va être un feature de Google Maps qui est Location Sharing, plutôt que Trusted Contact, où est-ce qu'on garde le contact à travers cette application-là.
Mais ça aussi, je pense que genre, j'ai eu dans le bêta.
Exactement, fait que maintenant, Location Sharing va être sur Google Maps plutôt que s'appeler une application Trusted Contact.
Mais je pense que cette semaine, j'ai eu ça, Location Sharing, en googlant quelque chose puis en allant sur Map. C'est fou, là. Je pense que moi, j'ai des versions bêta.
Correctement, j'étais un pixel. Fait que,
ouais, c'est ça, peut-être que
tu sais. Les updates de Google, je pense, une semaine à l'avance ou deux semaines avec le Google Pixel c'est téléphone ça. Mobile. Maintenant, pour faire changement, Snapchat!
Ah, c'est pas mort, ça!
Non, au contraire, je te dirais que la génération Z sont des gros fans de Snapchat. Il y a maintenant des shows sur Snapchat qui sont exclusifs sur Snapchat. Il y a eu, justement, chez la génération Z, une firme de marketing indépendante qui a été chercher des données sur Snapchat. Et Snapchat est le média social favori, pas le plus utilisé, mais le média social favori de la génération Z aux États-Unis.
Mais c'est pas ceux qui utilisaient TikTok il y a un mois, genre?
Ils utilisent TikTok aussi. TikTok était le deuxième. Si je me trompe pas, il y avait environ 30% pour, si je me souviens bien, du sondage, 30% pour Snapchat, 29% pour TikTok. Donc, TikTok et Snapchat pour la génération Z sont côte à côte en termes d'appréciation. Et ensuite, juste en dessous, c'était Instagram. Facebook était bon dernier en dessous. Et puis, en gros, Snapchat est vraiment en train de se réinventer. C'est juste que nous, on le voit pas parce qu'on n'est pas des gros utilisateurs de Snapchat, mais quelqu'un qui voudrait aller chercher les jeunes, il y a de plus en plus à faire dessus. Il y a aussi des nouveaux types d'annonces dessus pour les annonceurs sur Snapchat. Donc, Snapchat fait des moves. Et puis, un de leurs derniers moves a été de créer un feature qui s'appelle Snapchat Sound.
Wow!
En gros, Snapchat Sound, c'est un petit peu à la même manière que TikTok, on peut mettre de la musique sur notre Snapchat.
Aïe, aïe.
Quelque chose qui se faisait pas avant vraiment.
Non, c'est
à
ça.
À moins d'avoir un fil spécial.
Je pense que TikTok a fait avancer sur toutes les plateformes ce feature-là, tu sais, même avec les Reels d'Instagram.
Ça a été un changeur d'industrie.
Oui, exactement. Puis même, tu sais, les Reels d'Instagram, qu'est-ce que je déplorais au début que ça durait pas plus que 15 secondes? Ben là, on est rendu à 30 secondes. Fait que, tu sais, il va avoir une minute bientôt. Je pense qu'il faut y donner le temps. Mais personnellement, j'aime beaucoup plus Instagram Reels que TikTok. Puis ça, je démords pas pour plein de raisons. Mais quoique, cette semaine, on va avoir un invité, justement. Fait qu'on y posera aussi des questions sur TikTok parce que lui aussi, commence à se faire connaître sur TikTok, en plus d'avoir un métier vraiment passionnant dans le domaine du marketing web. J'en dis pas plus parce que c'est sur la glace, on attend des autorisations. Et puis, c'est quelque chose que j'aimerais vous parler, tu sais, justement, quand vous recevez des invités. Les gens ne le savent pas, mais des fois, les gens vont vous demander des questions d'avance pour les faire valider soit par leur compagnie ou leur attaché.
On travaille fort pour avoir nos invités.
Exactement. Fait que là, tu sais, on vous aime vraiment. Fait que les prochains invités, ça risque d'être pas mal toute la même formule. Donc, faut faire tout le déroulement du podcast de A à Z, montrer comment ça se passe, tout ça. Si vous voulez, je vous ferai un vidéo YouTube. Puis en parlant de vidéo YouTube aussi, je veux revenir sur...
Pour conclure avec Snapchat, là.
Oui.
Snapchat, là, puisqu'on n'avait pas terminé sur Snapchat. Snapchat est en train de devenir un genre d'hybride entre YouTube et TikTok. Je pense que c'est là qu'il est en train de trouver sa part de marché. Où est-ce qu'on peut s'envoyer entre nous et dans notre liste d'amis des vidéos un peu à la TikTok, mais qui ne restent pas dans le temps. Et en même temps, on peut se rester sur la plateforme en écoutant des shows déjà établis, soit par des créateurs de contenu indépendants ou soit par des chaînes un peu plus officielles. Donner un exemple, il y a... j'ai un blanc. Désolé, je l'avais devant moi il y a quelques secondes. Mais comme TMZ, justement, oui. TMZ, qui est justement le gros média de paparazzi aux États-Unis, ont un show sur...
Mais t'as même Skip the Dishes qui a un show.
Ouais, ça, je pense que c'est une annonce.
Okay,
c'est une annonce qui est placée comme un show.
Parce que je sais que de plus en plus, c'est ça que j'ai vu au Québec puis aux États-Unis.
Guinness World Record a un show dessus où est-ce qu'ils montrent des petits glimpses de...
Lifehack aussi, qui est connu.
Exactement. Fait qu'on a des shows craft. À la même manière que YouTube dessus,
ouais.
Mais on peut se communiquer entre nous et dans notre liste d'amis avec des courtes vidéos comme on le faisait déjà sur Snapchat. Donc, on a une hybride entre YouTube et TikTok. Moi, personnellement, j'aime bien. Mm-hmm. Est-ce que je l'utilise? Pas du tout parce que mon audience n'est pas là, mon audience n'est plus là. C'était le cas pendant un bout de temps. Mais si je ferais partie de la génération Z, je l'utiliserais beaucoup. Et puis peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec la génération Z qui grandit, si Snapchat réussit à garder sa position qu'ils ont en ce moment avec la génération Z, dans 2, 3, 4, 5 ans, on va en entendre parler et puis il va peut-être même revenir en force. Un créateur de contenu au Québec qui n'a jamais arrêté parce qu'il y a probablement la plus grosse audience sur Snapchat au Québec, c'est Olivier Primeau.
Oui.
Olivier Primeau, il a jamais arrêté. Comme là, il y a 21 heures de ça, je vois qu'il a publié. 18 heures de ça, il a publié. Il y a 2 heures de ça, il a publié. Donc, il est très actif sur Exactement. Snapchat. Et s'il n'y aurait plus d'audience sur Snapchat et que Snapchat serait complètement mort et enterré,
je pense
un gars comme
là.
Lui serait plus là.
DJ Khaled.
DJ Khaled, qui est encore là, il est super actif. Par exemple, peut-être je me trompe, sous toute réserve, je pense que DJ Khaled a un deal avec Snapchat.
Ouais, ben probablement aussi que c'est le même contenu qu'ils partagent les deux sur Instagram.
Aussi. Puis, aussi, en bonne partie.
Stories, ouais.
En bonne partie. Snoop Dogg ouais. aussi qui est là. Puis là, après, bon, ils montrent des shows, des extraits de shows un peu plus mainstream ou des shows de créateurs de contenu indépendant. Donc, Snapchat
c'est intéressant de savoir.
N'est pas mort. Ne mais l'ignorez pas dans votre stratégie marketing.
Juste pour revenir un petit peu sur YouTube, parce oui. que, tu sais, on se fait demander des vidéos YouTube et tout ça. Et là, j'ai un gros dilemme. Pour la journée de publication, justement, du podcast, pas du podcast, mais des vidéos YouTube, 50% me disent jeudi et l'autre 50% me disent vendredi. Et c'est vraiment 50-50, là. C'est même pas, j'en reviens pas, c'est duré pendant 24 heures. À un moment donné, j'avais espoir que peut-être le jeudi, il y en avait un peu plus, tandis qu'à un autre moment donné, le vendredi, et 24 heures plus tard, le diagnostic est tombé 50-50. Donc, si jamais vous écoutez ça, j'hésite à remettre des vidéos sur YouTube, justement, parce que je sais pas quelle journée en poster, ou est-ce que je publie 2 vidéos, un jeudi et un vendredi. Ça reste à voir, parce que, tu sais, des fois aussi, j'ai pas tout le temps le temps. On s'entend, je suis entrepreneur.
Ça devient, on dirait,
avec
de
une vie de famille.
Difficile.
Oui.
Trouver le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire.
Exactement. Ça devient vraiment difficile. Puis le podcast, ben, depuis le confinement, j'ai vu des statistiques énormes comparativement à YouTube. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus au podcast. Les statistiques augmentent vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc, il y a vraiment quelque chose justement à faire là-dessus. Puis, on est bien content de partager ces moments-là avec vous. Mais si ça vous intéresse, faites-moi le savoir sur Instagram. Je ferai une vidéo pour justement montrer comment que on s'était dit, on va vous montrer notre salle de podcast très prochainement. Mais aussi, comment qu'on va chercher des invités, puis justement, quand on demande des questions d'avance, à quoi ça ressemble.
Moi, mon contenu favori à faire sur YouTube, c'est le contenu lifestyle. Tu sais, quand on va à l'extérieur, qu'on raconte des gens, qu'on voyage.
Exactement. J'aime faire du contenu. C'est plus difficile avec le... Et les gens, tu sais, me demandent, ah, ben, tu sais, peux-tu parler de ta routine beauté, des affaires de même, ou faire des recettes? Mais c'est parce que...
T'as fait ça pendant une décennie de temps.
C'est ça, je t'en ai à un moment donné. Puis c'est parce que ça rapporte rien, OK? Ça rapporte pas. Et les gens, après ça, ils pensent, ah, ben Josiane est juste une blogueuse ou juste une blogueuse. Et ça devient péjoratif. Et ça, j'ai eu cette discussion-là avec Laurent Turcot la semaine dernière, durant un live. Je disais, tu sais, je fais autre chose, mais les gens pensent que je suis juste une blogueuse. Je suis juste...
Ça commence à s'effacer, cette étiquette-là. Exactement. Ça fait du bien,
si
ouais.
Si je fais une vidéo trop lifestyle, ça retombe là-dedans. Fait que... Donc, c'est ça. Tu sais, c'est un... Faudrait en reparler longuement. Tu sais, justement, un an, genre, justement, à faire effacer. Parce que ça a pris un an. Totalement. Aujourd'hui, ça fait un an que je m'affiche plus comme blogueuse, mais entrepreneur. Et je dirais que ça a changé beaucoup de choses dans nos vies.
Super. Avant de passer au prochain sujet qu'on voulait discuter, je voulais faire une parenthèse. Il y a Cookit qui est pour 2020 classé 21e sur le palmarès de CanadianBusiness.com parmi justement les meilleures et plus grandes startups avec la plus grande croissance au Canada. Avant, c'était une liste qui s'appelle Growth 500, dans le fond, le croissance 500.
Oui.
En ce moment, on a Cookit qui est 21e au Canada, 3e au Québec. Donc, un gros shout-out à eux, un gros félicitation. On adore Cookit. Josiane, parlons un peu de notre relation avec Cookit, ben, parce que vraiment, là, on les...
Tu sais, comme dans le premier podcast, un des premiers podcasts qu'on a fait, on en avait parlé longuement. Et puis, ben, Cookit, on a eu beaucoup avec le blog, puis même ça continue encore avec le blog, même si, parce que mon blog est traduce.com, il est encore en ligne. Je publie des fois dessus. Mais tu sais, je reste très discrète là-dessus et tout ça. Et puis, justement, tu sais, cette semaine, ben, ça nous a coûté 0$ avoir un poulet laqué,
super bon programme de filet qui marche super bien.
Champignons, portobello, tagine, et ça, c'est tout grâce à vous si on veut manger gratuitement. Et avec mon code de promo Josiane avec 2N, J901, vous avez 40$ et vous avez 50% sur votre première commande. Donc, si vous voulez l'essayer, j'en parle un peu partout, même sur mon Instagram, de ce fameux code promo-là. Donc,
qui ont tellement bien fait leur marketing d'affiliés parce que c'est gagnant pour le nouveau client d'utiliser le code et c'est bon pour le créateur de contenu. Normalement, je suis pas friand des programmes d'affiliés qui payent en crédit seulement chez le marchand, mais dans le cas où c'est de la nourriture et puis que c'est un tellement bon service que Cookit est, j'ai pas de problème avec ça dans ce cas-là, parce que vraiment, ils sont géniaux et puis ils ont créé, puis je pense que c'est ça qui fait justement que leur programme d'affiliés a autant un grand succès. Ils ont créé un programme qui est gagnant de l'utiliser pour les clients et gagnant pour les créateurs de contenu ou la personne qui a fait.
Il y a des points aussi, plus que tu achètes, plus que, il y a plein de choses comme ça. Et c'est justement ces points-là, genre, on se ramasse aussi avec d'autres choses dans le garde-manger qui appelle le garde-manger Cookit. Ou est-ce que ça peut être des jus de fruits, de la barbe à papa, tu sais, des petites gâteries, ça peut être même
parce
des légumes.
Parce que Cookit, puis je pense que des choses qui ont fait justement leur succès puis leur croissance, c'est pas juste une boîte avec des repas, mais c'est rendu un mini marché, un mini épicerie.
Et exactement, tu sais, c'est sûr, il faut que tu achètes tes repas pour avoir accès au truc garde-manger. Mais une fois que, tu sais, justement, tu as établi ton menu, tu sais, puis que tu dis, ben moi, c'est ça que je veux manger, voici, tu sais, genre, ça, et tout ça, et du moment que tu commences à partager avec ta communauté, que tu sois influenceur ou non, tu vas vraiment avoir justement des bénéfices, puis tu vas économiser beaucoup. Tu sais, on s'entend là, tu sais, présentement, le coût de l'épicerie, et ça, je l'ai remarqué cette semaine, je suis venue pour faire une petite épicerie, puis ça m'a coûté 100$ pour pas grand-chose. Fait que, tu sais, faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, on va arrêter de parler de Cookit. parce qu'il nous reste comme un 20 minutes à peu près là, de,
yes.
de podcast. Et ce 20 minutes-là, 20-25 minutes-là qui restent, eh bien, on va parler de Dan Bilzerian.
Okay. Ignite, sa compagnie Ignite.
Attends. Pour ceux qui seraient nouveaux puis qui connaîtraient pas justement Dan Bilzerian, ça a été longtemps le gars avec le plus de followers sur justement Instagram, et il est né, et Snapchat aussi. C'est un gars qui est né d'une famille fortunée, mais dont son père a fait des fraudes. Et puis, justement, il a essayé toutes sortes de choses. Il a eu une carrière de joueur
de poker,
une carrière de star de cinéma, une carrière de politique qu'il a essayé courtement. Il y a eu plusieurs polémiques. Bref, c'est un sacré personnage, et surtout, tu sais, il y a beaucoup de photos avec de l'armement, tu sais.
Et puis, vous ne connaissez pas Dan Bilzerian. Pour avoir un contexte, faut que vous voyez son Instagram. Son Instagram, c'est là qu'il y a toute sa popularité, c'est là qu'il y a la majeure partie de son audience. Donc, si vous regardez son Instagram, son nom s'écrit comme il se dit, D-A-N espace B-I-L-Z-E-R-I-A-N, Dan Bilzerian sur Instagram, vous allez tout comprendre. En gros, il y a environ 2 ans de ça, il a démarré une entreprise qui, peu longtemps après avoir été fondée, est devenue une entreprise publique en bourse. Cette entreprise-là, c'est Ignite. Ignite, c'est une compagnie qui vend des produits relatifs au cannabis. Encore là, il n'y a pas de problème. Le cannabis est maintenant légalisé dans justement au Canada et dans certains États aux États-Unis. Le siège social de Ignite est au Canada.
Mm-hmm.
Le siège social de Ignite est au Canada. Néanmoins, la plupart de l'administration est aux États-Unis. Encore là, il n'y a pas de problème. C'est correct. Les produits ont l'air génial et, à ce que j'ai entendu, sont quand même de qualité. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se cachait derrière le rideau et puis qu'est-ce qui est arrivé, parce que ça pourrait faire un film. Pour vous mettre en contexte, un peu comme Josiane disait plus tôt, le père de Dan Bilzerian a, dans les années 70-80, début 90, commis des crimes financiers qui font en sorte qu'il n'a pas le droit d'être justement à la direction de l'entreprise. Entre autres, et beaucoup plus. Je dis ce point-là parce qu'on va en avoir besoin un peu plus tard, ce point-là. En gros, la dernière année, en 2019 seulement, la compagnie a perdu 50 millions. Donc, on se dit, c'est une start-up, ils doivent investir beaucoup en recherche et développement. C'est normal qu'ils perdent de l'argent. OK. Mais je vous explique. L'argent et l'entreprise a tellement été mal géré. Et puis, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. 100% de l'argent allait dans les poches de Dan Bilzerian et son père, encore là, sous toute réserve, mais c'est ce que les gens qui ont accès, encore là, tout le monde y a accès, étant donné que c'est une entreprise publique, à leurs données financières voient. Où est-ce que l'argent est dépensé en marketing? C'était dans les poches de Dan Bilzerian. Où est-ce qu'il faisait des parties au nom de Ignite? Ça finissait plus. Il achetait n'importe quoi au nom de Ignite. Et puis, en ce moment, il est énormément dans le trouble. Et puis, dans la dernière année, justement, parce qu'il a toujours continué son personnage de playboy ultra macho qui est de moins en moins populaire avec le contexte du monde qui change. Il a perdu beaucoup de followers. À ce qui paraît, il y avait même quelqu'un chez Ignite qui était payé à temps plein pour y acheter des followers et faire en sorte que, justement, la popularité de son Instagram ne tombe pas sous zéro. C'est complètement ridicule, prenant en compte un gars qui a au-dessus de 36 millions de followers. Aussi, il y a... C'est vraiment fou. Puis aujourd'hui, ben, ils cherchent à vendre la compagnie. Si on regarde leur rapport financier, ben, on voit que leurs jours sont comptés. Il leur reste environ un point, aux dernières nouvelles, on est le 18 octobre, à ce que j'ai entendu, il leur restera environ 1,6 million de dollars de liquidité.
US.
Et puis personne veut leur prêter d'argent. Tout ça parce que, puis là vous allez comprendre un peu le lien avec notre podcast, tout ça parce que lui, Dan Bilzerian, il s'est dit seulement avec mon nom, cette compagnie va être un succès. Seulement avec mon nom et mon audience Instagram, je vais faire de cette compagnie-là quelque chose d'énorme. Les ventes ont été vraiment pas grand-chose. Et puis, est-ce que ça suffisait seulement un ambassadeur, une personne qui en faisait la promotion sur ses médias sociaux? Je pense pas. Encore là, est-ce que ça veut dire qu'on doit nécessairement avoir 150 créateurs de contenu web qui parlent de notre marque? Pas nécessairement non plus. Josiane, ton input sur qu'est-ce que tu as vu de Ignite?
Ben, moi, je trouve que ça a été très, très, très mal géré, tu sais, dans le sens que, tu sais, même les investisseurs qui ont investi là-dedans, j'aurais fait des recherches un peu plus. Ça, je comprends pas parce que, tu sais, même ici au Québec, qu'on en a vu, là, tu sais, on dirait que les gens font une confiance aveugle dès qu'on parle de gros, gros chiffres. Mais les petits montants, là, c'est ça, ça a l'air du scam. Mais quand on parle de gros chiffres, les gens sont plus en confiance, on dirait. Et Ignite, on s'entend, c'est plusieurs millions de dollars.
Millions.
Excuse-moi. Et puis, qui aurait eu une opportunité, surtout avec l'ouverture des marchés comme le Canada. Je pense qu'il était un peu trop tôt pour les États-Unis. Il était un peu trop d'avance aussi. Mais, parce que c'est pas tous les États aux États-Unis.
Ils étaient distribués leurs produits, je crois, dans l'ouest du Canada.
Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le Canada aujourd'hui qui... depuis 2018, qui ont fait free marijuana, ben pas free, mais tu sais, tout ce qui est justement en lien avec le cannabis et tout, au Canada, tu sais, il y aurait eu un gros marché, quitte après ça, tu sais, à un moment donné, les États-Unis, quand ils vont voir le Canada aller un petit peu avec le cannabis, ah ben ok, tu sais, peut-être qu'ils vont suivre l'emboîtement et tout, mais tu sais, on regarde les photos, et tu sais, genre, moi, qu'est-ce que je trouve encore plus décourageant pour ceux qui ont investi? On le voit en jet ski dans sa piscine, genre, tu sais, c'est comme allô, là, tu sais. Moi, genre, être investisseur, ça brise la confiance et tout, puis j'ai l'impression que il va se faire arrêter la fraude.
C'est-à-dire, le gars, il dit ouvertement sur son Instagram qu'il achète des machine guns avec l'argent de Ignite.
Oui, mais il fait brander Ignite, puis c'est du marketing. Non, c'est pas du marketing.
Mais c'est ce que tout tourne autour de lui, puis s'acheter des choses pour lui, c'est ridicule. C'est pas une manière de faire, puis je trouve ça extrêmement selfish.
Avec le budget qu'il y avait des investisseurs, moi, j'aurais pris 30% en vrai marketing, genre des influenceurs, des publicités Facebook, découvrir Ignite, mais tu sais, d'une façon lifestyle et tout ça. Et j'aurais justement enlevé le personnage de Dan Bilzerian totalement. Parce que dès que c'est une personnalité publique, genre surtout qui est controversée déjà d'avance, moi, j'aurais été investisseur, j'aurais dit « Ok, regarde là, on va faire des posts un peu plus neutres, on va engager des acteurs, des mannequins, peu importe, pour faire
cette publication-là. » Je crois que, peut-être je me trompe, mais je crois que la compagnie en tant que telle, Ignite, aurait dû rester très neutre sur son marketing, justement, pour sa réputation, prenant en compte que c'est une entreprise publique, qui vont justement aller chercher des fonds d'une manière publique. J'aurais resté très neutre au niveau de la compagnie. J'aurais laissé Dan Bilzerian être Dan Bilzerian. Non, moi, j'aurais pas gardé Dan Bilzerian comme CEO parce que, à ce qui paraît, Dan Bilzerian est supposément le CEO de la compagnie. Néanmoins, il y a des sources à l'intérieur de la compagnie qui disent que depuis le début, c'est son père. Dan Bilzerian n'est seulement un front.
Mais déjà là, le front est mal vu aussi, tu sais.
C'est ça, exactement. Mais Dan Bilzerian, qui est un ambassadeur pour cette marque-là, une marque un peu plus edgy, un produit un peu plus edgy, je comprends. Je comprends, ça donne du sens. Néanmoins, ni lui, excuse-moi, peut-être je me trompe, je ne connais pas personnellement, mais je pense pas que ni lui ni son père ont les compétences ou l'intégrité pour occuper un rôle de CEO dans une entreprise publique. Son père, parce qu'il a un background criminel, dans le domaine, donc c'est probablement pas les compétences qui manquent, mais plutôt le niveau d'intégrité et puis le risque qui est prêt à assumer, qui doit être complètement démesuré. Et puis, d'un autre côté, t'as un gars comme Dan Bilzerian qui a aucun background en finance, qui a aucun background en gestion d'entreprise. Le gars, toute sa vie adulte, a été dans l'armée et a été une personnalité publique. Tu sais, encore là, je veux dire, est-ce qu'il y a un potentiel de développer du talent? Oui. Est-ce qu'il fait à ce qu'on a entendu dire? Absolument pas. Le gars a quand même une énorme audience. ça aurait été, je pense que c'est un bon ambassadeur. Honnêtement, en tant qu'ambassadeur, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il attire les foules, puis on l'a vu à plusieurs reprises. Il est venu au Beach Club, justement, au Québec. Il y avait des foules. Le gars attire des foules. Exactement. C'est un bon ambassadeur. Mais c'est tout. C'est tout. Au niveau
c'est
des présidents.
C'est pas de la finance ou des business, là.
Non, c'est ça. À ce qui paraît, il était pas au meeting de toute façon. C'était son père qui allait au meeting, à ce que j'ai entendu dire, selon les sources qu'on a entendues de l'interne. Fait qu'en gros, en résumé, leur stratégie marketing, c'est de faire des gros parties avec Dan Bilzerian puis 300 modèles qui portaient des bikinis Ignite. Faire des posts de Dan Bilzerian qui fait des niaiseries avec des guns brandés Ignite, avec son jet ski brandé Ignite, des yachts brandés Ignite, des jets privés brandés Ignite. Fait qu'en gros, c'était pendant 2 ans un gros party pour Dan Bilzerian. Ça n'a jamais été focus sur le client, sur l'expérience du client, sur
exactement
qu'est-ce que ça aurait dû être. Encore là, Dan Bilzerian aurait dû être qu'un front. Son budget aurait dû, plutôt qu'il puisse piger sans fond, comme si c'était sa petite banque privée, il aurait dû simplement justement lui allouer un budget fixe et puis le contrôler beaucoup plus. Puis c'est pas la première fois qu'on voit du mismanagement de cette manière-là dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, non, qui fait courir à sa perte. On dirait à un certain point, les gens, ils ont trop d'argent dans les mains, et puis là, ils deviennent complètement fous, ils perdent la tête, ils s'achètent des gros chars, ils s'achètent des bateaux, ils s'achètent des grosses maisons, après ils se retournent, dès que, justement, on a un petit creux économique comme on vit en ce moment avec la COVID, puis « Oh non, je peux plus rien faire, ah oh, c'est à cause du contexte, non, c'est à cause que t'as mal géré tes finances, t'as mal géré ton entreprise, et puis t'aurais dû justement solidifier tes bases quand t'en avais la chance, quand ça allait bien, et puis maintenant que ça va mal, il est trop tard, et puis c'est l'histoire de Ignite. L'histoire, à cause du personnage extrêmement coloré puis extravagant que Dan Bilzerian est beaucoup plus intéressante quand on la suit à travers Instagram, quand on la suit en vidéo. Donc, je vous invite à aller voir Ignite et Dan Bilzerian,
oui,
sur Instagram. Vous pouvez aussi aller voir la cote en bourse de cette entreprise-là qui est BilZ, comme Bilzerian, B-I-L-Z. Je veux dire, quand tu choisis comme cote en bourse pour t'accompagner Bills, et non genre de quoi comme IGN pour Ignite, ou peut-être c'est déjà pris.
Mais je pense que c'est comme la corporation s'appelle Bilzerian, puis après ça...
Ouais, bon, en tout cas, la corporation, c'est Ignite International Brand LTD. Okay. Puis eux autres, ben, ils ont choisi Bills en bourse. Et puis, en bourse, ben, le stock aujourd'hui, le 18 octobre, est à 38 sous canadiens. Il est au plus bas que jamais été. Et puis, selon nos sources à l'interne, ben...
N'achetez pas!
Ouais! Et puis, justement, tu sais, qu'est-ce qui est assez ironique, c'est que, tu sais, en ce moment, il y a un gros conflit en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ben, Dan Bilzerian est aussi propriétaire d'un passeport arménien.
Oui.
Et puis... Il se pourrait, sous toute réserve, qu'il soit accusé, un peu à la même manière de son père, de certains crimes financiers, de mismanagement de l'argent public. Sous toute réserve, encore là, c'est ce que j'ai entendu. Et puis que, potentiellement, il irait fuir en Arménie. Mais en Arménie, c'est pas la merde qui est pognée là-bas.
Oui, ça va être un beau... une belle télé-réalité à regarder. Un peu de divertissement. Parce que là, moi, genre, je suis allée d'écouter Brooklyn Nine-Nine comme pour la 75e fois, même si c'est une excellente série. J'ai vraiment compléter Netflix. Je pense qu'on peut se le dire, là. Genre, je trouve plus rien de bon. Donc, si jamais il y a quelque chose que j'ai passé à côté, dites-moi-le. Mais je pense que Dan Bilzerian, ça va être une bonne partie de divertissement.
Je pense que c'est la fin.
À partir de la fin de l'année. Donc, puis ça va peut-être te changer un petit peu les idées de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment.
Exactement. Tu sais, c'est quand tu regardes l'Instagram d'Ignite, je suis sur l'Instagram d'Ignite à ce moment, ce n'est que Dan Bilzerian.
Avec des pitounes.
Avec des pitounes. Ce n'est que lui, c'est complètement ridicule. Je veux dire, je comprends que ce soit l'ambassadeur de la marque. Comme je suis même pas contre le fait que ce soit l'ambassadeur de la marque. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Et puis, d'un point de vue marketing, je respecte qu'est-ce qu'ils veulent faire. Par exemple, l'exécution est clairement complètement débile. Je veux dire, ils ont pas mis...
Désolé.
Ils ont pas mis la compagnie ou les clients de l'avant. On voit jamais des clients potentiels. On voit jamais... c'était juste moi, moi-même et mon égocentrisme. C'était tout.
Exact.
C'était tout. Qu'est-ce que...
Puis là, je viens de trouver quelque chose que je t'ai envoyé, ouais. Tu sais, tout ça. Puis je pense que aussi, tu sais, genre justement, tu sais, on parle, tu sais, de souvent, tu sais, d'avoir des compétences professionnelles et tout ça. Eh bien, Facebook a décidé de faire des certificats de Social Media Marketing Professional. C'est gratuit, donc vous pouvez aller le faire, puis, tu sais, justement, vous faire connaître vos services, puis ajouter de la crédibilité. Donc, ça vient de sortir.
C'est génial.
Oui, Shopify le fait, puis je trouve que, tu sais,
personnellement, je vais...
Il y a une confiance quand on a ça.
Entre quelqu'un qui a été pendant 10 ans à l'université versus quelqu'un qui a pris la peine d'aller chercher des certifications sur Google, sur Shopify, sur Facebook, j'irais 1000 fois là. Il y a aussi, justement, j'ai été me chercher un diplôme de Harvard, justement, sur edX. Ça, mm-hmm. J'ai adoré. Si on parle, justement, de suivi puis de formation en ligne, il y a edX, edx.org, justement, où est-ce qu'on peut aller faire des petits cours, justement, qui sont des fois des 5 à 30, 40, 60 heures. Sur justement des sujets qui sont traités par un paquet de gros noms connus dans le monde du learning, justement comme Harvard, Berkeley, MIT, University of Texas, University of Boston, Hong Kong Polytechnic. Vraiment, il y en a une tonne et puis un paquet de sujets. La plupart sont gratuits, il y en a certaines payantes, edx.org. Mais ouais, non, je suis d'accord. Honnêtement, je trouve que le learning,
oui,
l'apprentissage se fait d'une manière totalement différente à qu'est-ce qui se faisait avant.
Et c'est ça.
J'adore ça, je trippe.
Puis je pense aussi, tu sais, comme ça va éviter d'avoir des cas comme Dan Bilzerian. Et le prochain podcast, on va parler justement, tu sais, d'influenceurs dans le prochain épisode. Et j'ai très hâte parce que ça va être vraiment de façon très spéciale, de quelque chose qui est excessivement suivi en ce moment au Québec. Et, tu sais, d'avoir un petit peu, savoir comment ça fonctionne, puis comment que c'est quoi la game et tout ça. J'ai très, très hâte de vous présenter ça cette semaine. Fait que c'est pour ça qu'on disait...
On va rentrer dans le très mainstream, là.
Le très mainstream, puis on pense avoir au moins 2 à 5 000 écoutes sur ce podcast-là.
Non, c'est sûr. Ça, j'en ai aucun doute, mais vraiment, la qualité, justement, des invités, ça va être assez incroyable. On a super hâte. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. C'était l'épisode 4 de la saison 3 du podcast Wi-Fi Café Ambition.
Ouais.
Et puis, on se revoit la semaine prochaine.
À bientôt.